SBS Audio is supported by advertising.
Ready to launch your business? Get started with the commerce platform made for entrepreneurs. Shopify is specially designed to help you start, run, and grow your business with easy customizable themes that let you build your brand. Marketing tools that get your products out there, and that's just the beginning. From startups to scale-ups, online, in person, and on the go. Shopify is made for entrepreneurs like you. Shopify, your all-in-one commerce platform.
Sign up for your $1 a month trial at shopify.com.au/listen.
Vous êtes avec SBS French.
Europa Voice numéro 181. Et comme à chaque fois, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors on a un beau grand Europa Voice devant nous. Deux sujets. Tout d'abord, on va parler de la Grande-Bretagne et des petits problèmes qui empoisonnent la vie de Keir Starmer. Et après, en deuxième partie donc de cet Europa Voice, nous parlerons des relations entre les États-Unis et l'Europe qui se corsent, qui se tendent. Mais tout ça, ce sera donc après cette discussion sur l'avenir du Royaume-Uni. Keir Starmer, Premier ministre britannique, Premier ministre du parti Labour, sous pression, sous énorme pression, à peine un an après son élection.
Oui, effectivement, Christophe, c'est une période un peu troublée pour Keir Starmer, qui est déjà, vous l'avez mentionné, un an après son élection, menacé en fait l'opposition, enfin il est aussi menacé par l'opposition, mais il est même menacé au sein de son propre camp. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit aussi que la difficulté politique, elle est aussi de convaincre son propre camp. Et ce qui est intéressant dans le Labour britannique, Christophe, et vous le savez autant que moi, c'est qu'en fait on a toujours eu, mais depuis même Tony Blair, comme ça, une opposition entre deux courants, un courant, j'allais dire, plus à gauche, plus travailliste, et un courant plus libéral, plus moderne. Et là, ce qui change un peu la donne dans la configuration actuelle et avec cette élection et ce challenge posé par Andy Burnham, c'est que il y a la menace aussi de Réforme UK, il y a la menace du parti d'extrême droite, et donc un petit peu ce qui est dans la balance, Christophe, c'est la contestation du leadership de Keir Starmer, parce qu'il ne serait plus capable aux prochaines élections législatives, de faire face et de l'emporter face à Réforme UK. Et c'est pour ça, en fait, qu'il est poussé vers la porte par d'autres prétendants au sein même de sa formation politique.
Ce qui est hallucinant dans ce système politique, qui est d'ailleurs très très semblable au système australien, enfin c'est l'inverse, hein, c'est le système australien qui est très semblable au système britannique qu'on appelle le système Westminster, c'est qu'en fait on est quand même à 2 ans et quelques des prochaines élections prévues, mais le Premier ministre pourrait, entre guillemets, et excusez-moi le langage, sauter parce qu'il n'est pas assez fort maintenant, alors que les élections sont prévues dans 2 ans.
Alors, il y a 2 points, je trouve, qui sont intéressantes pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS sur cet aspect-là. Quand vous avez parlé du modèle de Westminster, le modèle au Royaume-Uni, mais aussi le modèle en Australie, par rapport au modèle qu'on connaît peut-être plus, que nos auditeurs peut-être connaissent plus, qui est le modèle présidentiable, ou en tout cas la Cinquième République, comme ça, avec un exécutif où on a un président de la République à sa tête, c'est qu'il y a 2 choses. D'abord, c'est la fréquence des élections. Alors, les élections en France, elles se sont rapprochées de la fréquence des élections dans le modèle de Westminster, mais il faut dire que si on prend par exemple le modèle australien, la fréquence des élections fédérales et donc les changements potentiels de Premier ministre, elles arrivent tous les 3-4 ans. Donc de manière beaucoup plus soutenue qu'en France. On est passé, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, Christophe, du septennat au quinquennat. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose aussi, qui est pour moi très importante à concevoir et à comprendre pour justement expliquer pourquoi on anticipe 2 ans avant, c'est que dans le modèle de Westminster, en fait, il faut être un élu pour pouvoir accéder aux fonctions de Premier ministre. Ce qui n'est pas le cas pour le président de la République. Il faut être élu député, pardon. Il faut être député ou sénateur pour être... Pour devenir Premier ministre. En France, votre leadership peut être contesté jusqu'au dernier moment. Si vous présentez à l'élection présidentielle et que vous gagnez, ça suffit. Alors que dans le modèle de Westminster, vous devez d'abord être élu à des élections législatives, si on veut comparer, pour ensuite accéder aux fonctions de Premier ministre. Donc en fait, ce qui se passe aussi au sein du Labour, c'est qu'on est déjà en train de se placer pour savoir qui sera potentiellement le meilleur candidat pour prendre les rênes du pays. Donc c'est très différent vous ne pouvez pas ne pas être élu député pour accéder à la fonction suprême qui est celle de Premier ministre. Alors qu'en France, pour encore une fois reprendre la comparaison, vous pouvez être nobody jusqu'aux élections présidentielles, faire une campagne éclair, et puis devenir président de la République, c'est le cas Macron il y a 10 ans de cela.
Absolument. Est-ce que vraiment, réellement, on pense que Kerstamer pourrait être challengé, pour un mauvais mot en franglais, pourrait être défié et pourrait perdre donc la confiance de son banc et être éjecté en tant que Premier ministre, même si il y a vraiment beaucoup de pression aujourd'hui. Est-ce que c'est judicieux pour les Labour britanniques de faire ça aujourd'hui?
Alors, Keir Starmer, Christophe, vous le savez autant que moi, il est extrêmement impopulaire dans l'opinion publique. Pas seulement au sein des électeurs de gauche, des électeurs travaillistes. C'est un Premier ministre qui est impopulaire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, s'il est contesté, Keir Starmer, il n'est pas non plus contesté dans une circonscription. Là, je parle notamment du Grand Manchester et de Andy Burnham. Il est contesté dans une circonscription qui est un bastion historique du Parti travailliste. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'au moment des élections législatives à venir, on a tout intérêt, enfin, les travaillistes ont tout intérêt à avoir un candidat issu d'un bastion, j'allais dire, historique, d'un bastion fort. Enfin, il a besoin de cette armée pour mener sa campagne. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, la troisième chose, encore une fois, Starmer, en fait, il est aussi coincé d'une certaine façon, parce qu'il est obligé de soutenir le candidat travailliste, même si celui-là pourrait être son challenger futur. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que moi, je pense qu'il peut vraiment être challengé, et surtout, il peut être challengé parce que il va le soutenir. Et donc, en fait, il va d'une certaine façon aussi lui donner une légitimité pour le contester au moment des prochaines élections. Et puis peut-être dernier élément, quatrième et dernier élément, encore une fois, on n'est plus en Angleterre, simplement au Royaume-Uni, dans une opposition classique Labour Conservative, le parti de Nigel Farage, le parti Reform UK, comme dans beaucoup de démocraties européennes, la droite extrême, l'extrême droite pèse de plus en plus. Donc il y a aussi cette question-là de savoir quel est le positionnement du Labour face à la menace de l'extrême droite au moment des prochaines élections législatives.
D'autant plus qu'il y a quelques jours, au moment où on enregistre cette Europa Voice, il y a eu vraiment une démonstration de force de cette droite dans les rues de Londres. On a vu des manifestations avec des dizaines de milliers de personnes, et ça, tout ça mené par un activiste, donc qui est vraiment
Tommy Robinson.
Tommy Robinson, et donc cette persona qui est aussi secoue un peu le cocotier entre guillemets sur ce qui se passe en Grande-Bretagne et fait le jeu de Nigel Farage.
Ah ben tout à fait, Christophe. Et puis en plus, j'allais dire ce qui se passe en si on veut encore une fois pour nos éditeurs d'Europa Voice et d'SBS faire un peu de pédagogie et de politique comparée, on est aussi dans une situation où le Parti travailliste au Royaume-Uni doit aussi endosser les voix de l'extrême gauche. C'est-à-dire qu'une certaine façon, il est moins challengé par un parti externe. S'il y a un souffle plus à gauche au sein du Parti travailliste, il viendra du Parti travailliste lui-même. C'est ce que je disais dans cette première partie de la première partie d'Europa Voice, Christophe, c'est que le Labour, il a été traversé depuis Tony Blair par justement cette opposition entre le New Labour et les travaillistes classiques. Enfin, vous prenez des personnes comme Tony Blair et Jeremy Corbyn, elles sont diamétralement opposées. Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, le Labour a intérêt à ne pas perdre ce terrain-là et à adopter la position qui est la plus à même pour gagner, encore une fois, face aux Conservatives et aussi face à Reform UK. Situation qui est complètement différente en France, puisque aujourd'hui, en fait, la gauche, le Parti Socialiste représente la social-démocratie et puis LFI a trusté toutes les voix plus à gauche de la gauche. Donc vous avez deux partis qui sont distincts. Ce qui, encore une fois, n'est pas le cas. Enfin, vous avez des partis aussi d'extrême gauche en Angleterre, mais ce n'est pas le cas en termes de représentativité. C'est toujours le Labour qui endosse cette gauche de la gauche à travers certains courants au Royaume-Uni.
Absolument. Et on a parlé de Grande-Bretagne, on n'a même pas parlé de Brexit. C'est ce qui est quand même hallucinant, puisque bien sûr, dans une mouvance d'après Brexit. On fait une courte pause et on revient dans quelques instants. On parle d'Union européenne et des États-Unis. On se retrouve tout de suite.
Ready to launch your business? Get started with the commerce platform made for entrepreneurs. Shopify is specially designed to help you start, run, and grow your business with easy customizable themes that let you build your brand. Marketing tools that get your products out there, and that's just the beginning. From startups to scale-ups, online, in person, and on the go. Shopify is made for entrepreneurs like you. Shopify, your all-in-one commerce platform.
Sign up for your $1 a month trial at shopify.com.au/listen.
Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/check-your-setup.
Retour dans notre seconde partie d'Europa Voice, toujours avec Nathanaël Bloch. Nathanaël, il est temps de parler de l'Union européenne en tant que telle et des relations avec les États-Unis. Alors là, c'est pareil, ça se tend des deux côtés parce que c'est des décisions commerciales et on sait à quel point Donald Trump est virevolte et a beaucoup de déclarations, tout et son contraire. Enfin, en tout cas, on peut dire que l'administration Trump, ils les ont mis un peu dans l'œil du fusil. Enfin, en tout cas, les relations sont pas au plus beau fixe, même les relations commerciales, hein, surtout les relations commerciales.
Ah oui, alors Christophe, ça c'est simplement Donald Trump qui met en action les menaces qu'il a proférées à l'encontre de l'Union européenne, notamment sur la question des droits de douane. Peut-être prendre un pas en arrière sur cette question-là, c'est que encore une fois, on est dans un modèle au sein de l'Union européenne, un modèle de libre-échange. De circulation des biens et des personnes. Mais l'Union européenne, quand il y a des échanges commerciaux avec d'autres parties du monde, eh ben, il doit y avoir des accords et des droits de douane et des tarifs douaniers qui s'appliquent sur l'ensemble des biens et des services que vous échangez. Et là, c'est une discussion en fait qui remonte à l'été 2025 sur justement la mise en œuvre d'un accord entre l'Union européenne et les États-Unis sur le commerce transatlantique et sur un accord commercial. Et ce qui se passe, c'est qu'encore une fois, Donald Trump ne fait que mettre en œuvre les menaces, ou en tout cas ne fait que mettre en œuvre ce qu'il a lui-même annoncé en termes de droits de douane, notamment les droits de douane de 15%, puisqu'il s'agit de ça en termes de montant, qui seront appliqués aux biens européens. Et alors là, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est appliqué sans réciprocité. Voilà, donc en fait, et là je reprends un peu les mots du commissaire européen de l'époque, il avait dit c'est pas la fin de l'histoire, c'est que le début. Et il a raison, c'est que le début parce que ces droits de douane vont avoir un impact sur les relations transatlantiques et sur les échanges commerciaux et sur la balance commerciale de l'Union européenne pour de nombreuses années, même dans l'ère après Trump.
Est-ce qu'on peut vraiment, est-ce qu'on doit vraiment se projeter même déjà dans une ère après Trump? Quand on est l'Union européenne, on sait que c'est quelque chose qui date depuis très longtemps. L'Union européenne sera toujours là après Trump. Comment on gère ça au niveau de l'Union européenne? Comment on gère Donald Trump quand on est l'Union européenne?
Ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'Union européenne et les États-Unis doivent de toute façon être partenaires, quel que soit le président. Et vous l'avez très bien dit, hein, la relation transatlantique, elle résistera et elle survivra aux différents présidents, que ce soit du côté français, du côté européen. Ce qui est plus complexe, c'est qu'une fois que vous avez fait du mal, une fois que vous avez entaché la relation, il y a des choses qui sont plus compliquées à remettre en œuvre. Si on prend là, on s'éloigne un peu des échanges commerciaux, mais si on parle de l'OTAN, le désengagement, Christophe, le désengagement américain de l'Alliance transatlantique, c'est quelque chose, ça va pas se refaire du jour au lendemain avec un nouveau président des États-Unis. D'abord parce que vous avez monté l'opinion populaire et vous avez rendu l'idée de l'OTAN un peu has-been et justement impopulaire au sein de la population américaine, parce qu'on parle d'infrastructures lourdes, parce qu'on parle d'investissements qui ont des conséquences de moyen et long terme. Donc c'est ça aussi la question, Christophe, c'est effectivement la relation elle-même transatlantique, elle va survivre à la présidence Trump, mais de la même manière que pour moi en fait, les impacts du désengagement américain de l'Alliance Atlantique se verront dans quelques années. Les impacts aussi des droits de douane américains, les impacts de ces échanges commerciaux avec les Américains se verront aussi dans les prochaines années. Et c'est ça, à mon avis, qui est intéressant. Et c'était ça l'idée aussi du commissaire européen en expliquant que c'était que le début de l'histoire. Parce que le début de l'histoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que l'Union européenne et les États-Unis vont se tourner vers d'autres partenaires. C'est un système, Christophe, de vases communicants. Si vous faites plus votre commerce majoritairement avec l'acteur A, vous le ferez avec le B. Vous voyez, le commerce va pas s'arrêter. Et donc c'est, j'allais dire, c'est là où on est un peu dans une zone d'incertitude parce qu'on sait ce qu'on a. On connaissait le commerce avec les États-Unis. On connaissait la relation transatlantique telle qu'elle était avant. On ne sait pas quelle va être, même si on prend l'exemple australien, Christophe, pour faire un peu d'actualité local, il y a eu la ratification de cet accord la conclusion de cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie. Peut-être ça marchera pas, Christophe. Peut-être que dans un an, après un an et après la ratification, on verra que c'est complètement, par exemple, les ambitions européennes sont atteintes, alors que les ambitions australiennes, disons, dès le marché européen, ne le sont pas. Parce que les consommateurs sont pas prêts à recevoir tel ou tel produit, parce que les droits sont trop importants. On verra peut-être qu'après les 5 ans, vous savez, où il y a une question d'exemption de par rapport au nom, ils peuvent utiliser pendant 5 ans, et puis après ils ont plus le droit, etc. pour chaque produit. On verra peut-être que ça, en fait, c'est un impact majeur. Et donc c'est là aussi où il y a une complexité, une difficulté et un risque, c'est que les décisions qui sont prises actuellement par l'administration Trump, effectivement, même si la relation transatlantique, elle, survit, on n'est pas à l'abri qu'elle ait un impact beaucoup plus durable, justement, sur les liens entre l'Union européenne et les États-Unis.
Mmh. Allez, j'ai une toute dernière question pour conclure cette deuxième partie d'Europa Voice. Donald Trump arrive en France pour le G7. Est-ce que c'est quelque chose qui va être discuté ou on arrivera quand même à faire la part des choses? Le G7, c'est pas l'Union européenne, même si tout cela se passe sur un territoire européen?
Oh non, ce sera discuté, Christophe. Ce sera certainement discuté. Et puis, il faut pas l'oublier, hein, dans le G7, il y a aussi quelques pays principaux, on va dire, ou fondateurs, ou historiques, appelons-les comme on veut, de l'Union européenne. Donc, c'est des choses qui vont être discutées. La complexité de l'Union européenne, c'est que on discute les choses, mais après, pour les faire voter, c'est encore une autre paire de manches avec tous les processus dont on parle souvent à Europa Voice, d'unanimité, de majorité qualifiée, des 2/3, des 3/5, etc. Donc, non, je pense que ça va être discuté. Et puis, il vient aussi dans le contexte encore de la guerre en Iran, enfin des conflits au Moyen-Orient. Donc je pense que non, ça va être sur la table. Là, ce qui s'est passé, plus ou moins, c'est simplement, encore une fois, s'entendre entre pour les Européens sur la mise en œuvre de cet accord. Et l'idée, c'est de désamorcer, de retrouver un commerce transatlantique stable, de retrouver une relation transatlantique stable. Donc c'est, voilà, on discute, on n'est pas d'accord sur les montants, sur les tarifs, mais une fois qu'on s'est entendu, ben dans ce cas-là, on avance et puis on voit ce que ça donne. Et encore une fois, on n'est pas à l'abri que ça aille dans un sens comme dans l'autre, que ce soit positif ou que ça amène plus de difficultés. Et puis il y a aussi des choses encourageantes, c'est que encore une fois, ça permet aussi à l'Union européenne de se poser toujours et encore les mêmes questions sur sa capacité d'autonomie, sur sa capacité de diversifier ses accords avec d'autres parties du monde, sur sa capacité aussi de regarder de l'autre côté du monde, dans la zone Indo-Pacifique notamment, et peut-être un peu moins du côté transatlantique. Alors voilà, pour être un peu poétique et marin, est-ce que c'est pas aussi une manière de passer de l'Atlantique au Pacifique et puis de réorienter un petit peu les priorités et de la France et de l'Union européenne.
À faire, à suivre. Merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Did you hear that? That's not a storm. That's your internet firing up with Leaptel's NBN plans. Lightning fast, rock solid, and when you need help, you won't be stuck on hold with someone overseas.
Nope, you'll get real people right here in Australia. And get 500 megabit speeds for just $79.95 for your first 12 months. T's and C's apply.
Visit leaptel.com.au and leap to better internet today.